Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qui veut du rab de fret ? Des abricots vendus en gros à Rungis, acheminés directement depuis Perpignan. C'est encore une phrase qui se conjugue au présent. La ligne de fret ferroviaire entre le marché central de la capitale des Pyrénées-Orientales et le marché d'intérêt national, le MIN, est maintenue. En tout cas, jusqu'à la fin de la haute saison. Voilà ce qui a été décidé il y a 10 jours au ministère des Transports, après une réunion de crise avec notamment les collectivités territoriales et la SNCF. Objectif, suspendre la fermeture de cette ligne qui devait avoir lieu fin juin, faute d'exploitants, ces derniers ayant déclaré forfait du fait de la vétusté des équipements et du manque de rentabilité. À l'annonce de cette fermeture, les réactions politiques ont été unanimes. C'est une aberration, en particulier au regard des questions environnementales. Le train pollue en effet beaucoup moins que les camions. Pourtant, face à cette évidence, le fret ferroviaire reste un parent pauvre de la politique du transport. Ainsi, le train ne représente plus aujourd'hui qu'à peine 10% du transport de marchandises, quand la route en capte 88%. L'ouverture à la concurrence en 2005 était pourtant censée inverser la tendance, mais manifestement cela n'a pas été le cas. Alors qui veut du rab de fret ? Et c'est à cette étrange question que vous allez devoir répondre. Je m'adresse à mes trois invités ce soir. Philippe Duron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Conseil d'orientation des infrastructures, un conseil qui a été installé il n'y a pas très longtemps.
Au moment des assises de la mobilité l'année dernière.
Vous êtes par ailleurs l'ancien président de la commission Mobilité 21, puis vous avez... entre autres choses, était député socialiste du Calvados.
Oui.
Pour discuter avec vous, Denis Schumer, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'AUTF, Association des utilisateurs de transport de fret.
Oui, les chargeurs.
Fret, ça veut dire pas seulement le fret ferroviaire, il faut bien
ça
préciser.
Veut dire toutes les marchandises,
si,
oui.
Même si c'est vrai, quand on parle de fret en général, on pense d'abord au train. Ça veut dire que les chargeurs, qu'est-ce qu'on entend par chargeur ?
Chargeurs, ce sont toutes les sociétés industrielles de distribution, de production de produits agroalimentaires, dont on va un peu parler, qui mettent leurs marchandises sur les différents modes de transport. Ça va effectivement du ferroviaire au routier, mais également transport international, maritime ou aérien.
Voilà, je dois dire d'ailleurs qu'on avait aussi invité des transporteurs. Enfin, on a essayé d'en avoir un, mais ça a été compliqué pour des raisons, semble-t-il, d'agenda. Notre troisième invité, c'est Marc Fressoz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des transports, en particulier des transports ferroviaires. Vous collaborez notamment, je vais en citer quelques mais à la lettre de l'expansion, Transport Info, Contexte.
C'était avant, oui.
Ça, tout ça, c'est... Voilà. Et puis, c'était avant aussi, c'était un livre que vous avez publié, c'était au Cherche Midi, FGV, faillite à grande vitesse. Il s'agissait bien sûr là encore d'aborder la question du train. Alors je voudrais qu'on commence par évoquer le cas précis de cette ligne de fret Perpignan-Rungis, prolongée donc au moins jusqu'à la fin de la saison haute, ça c'est ce qu'on a dit au ministère des Transports suite à la réunion d'il y a une dizaine de jours. Est-ce que cette prolongation vous paraît être une bonne décision, Denis Schumer ?
Oui, je pense qu'il faut essayer de sauver un certain nombre de lignes qui sont symboliques d'un futur qu'on appelle tous de nos voeux. Hein. Plus de rab, certainement, on en veut tous. Avec parfois des équations économiques qui sont avec des variations si faibles dans les paramètres qu'on peut inverser la tendance et passer d'un report modal négatif à un report modal positif. Donc il faut que tous les acteurs capables de réfléchir à l'évolution de leurs paramètres, paramètres de coût, paramètres de performance, se mettent autour de la table en disant qu'est-ce que je peux faire gagner au système pour qu'on bascule dans un mode vertueux et qu'on ne retourne pas sur la route.
C'est-à-dire que pour vous, c'est pas seulement un sauvetage provisoire, mais en tout cas peut-être un sauvetage qui aurait vocation à être beaucoup plus pérenne si on trouve des solutions qui sont à portée de main. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe Duron ? En tout cas, sur la décision déjà de se dire c'est quand même la saison haute et c'est peut-être pas une très bonne idée que d'arrêter ces acheminements alors que juillet-août arrive et qu'on mange beaucoup de fruits et légumes.
Je crois qu'Elisabeth Borne a eu tout à fait raison de réunir cette table ronde et de trouver une solution. Ce qu'il faut, c'est maintenant aller au-delà d'une solution provisoire et avoir une solution pérenne. Hein. On est face à un problème qui est majeur aujourd'hui. On a parlé pendant les semaines qui viennent de s'écouler de développement durable, de lutte contre le changement climatique, d'effondrement de la biodiversité. Et dans le même temps, on aurait comme mesure publique d'arrêter un trafic ferroviaire qui est vertueux pour transporter des, comment dirais-je, des cargaisons massifiées depuis des lieux de production vers les lieux de consommation. C'est à n'y rien comprendre. Donc il est absolument nécessaire de chercher des solutions. Là, il y a un vrai sujet. Le sujet, c'est la vétusté du matériel. C'est pas vrai uniquement pour le fret. On a vu, j'ai eu à m'occuper d'un dossier sur les trains d'équilibre du territoire où on avait du matériel qui était arrivé en fin de vie, alors qu'on doit le remplacer au moins tous les 30 ans. On est arrivé à près de 40 ans avant de remplacer ce matériel. La SNCF n'amortit pas son matériel, c'est ça. Il faut avoir des prévisions aux amortissements, ou alors avoir d'autres solutions pour, comment dirais-je, pour faire en sorte que le matériel puisse être loué par des opérateurs, des propriétaires de matériel qui sauraient, eux, gérer économiquement, convenablement, cette équation.
Les chiffres que j'ai pu lire dans la presse, alors par rapport à la modernisation nécessaire de cette ligne, et en particulier alors des wagons frigorifiques qui existent, semble-t-il, depuis une quarantaine d'années. Alors même s'il y a notamment la CGT cheminots qui dit il n'y a pas forcément besoin de les remplacer, on pourrait faire avec ce qui existe déjà. Mais les chiffres que j'ai vus, Marc Fressot, c'est autour de 20 millions d'euros pour les remplacer. Ça veut dire quoi que la SNCF, mais ça n'est peut-être pas qu'à la charge de la SNCF d'ailleurs, n'a pas les moyens de remplacer ces wagons pour maintenir cette ligne en bon état?
Je pense qu'on peut dire que la SNCF a une grande responsabilité dans l'effondrement du fret ferroviaire en France, puisque là, alors, ce qui est symptomatique, c'est que le président de la SNCF, Guillaume Pépi, il renvoie la faute aux autres, c'est-à-dire aux clients. Il dit c'est pas de ma faute, il y a pas assez de trafic, et puis il faut investir dans des nouveaux wagons. C'est la SNCF qui est propriétaire des wagons. Il a expliqué qu'il fallait 30 millions d'euros. Visiblement, la ministre des Transports.
30 millions, finalement, c'est pas vrai.
Oui, il avait dit d'abord 30 millions d'euros. Visiblement, la ministre des Transports n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Elle parle de 20 millions. Donc 20 millions, qu'est-ce que c'est? C'est une somme, mais quand on considère la politique que la SNCF a menée tous azimuts sur la route, par exemple, on sait que la SNCF a investi dans des autocars, les fameux cars Macron. Elle a dépensé des sommes colossales, beaucoup plus que 20 millions d'euros, pour aller concurrencer Flixbus, etc. Et finalement, elle a jamais gagné d'argent. Elle a englouti des sommes qui sont de l'ordre des centaines de millions d'euros pour revendre.
Pardonnez-moi, Marc Fressot, c'est pas forcément contradictoire avec le développement du fret ferroviaire, dans la mesure où les cars Macron, c'est pour transporter des personnes, pas des marchandises.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de stratégie, enfin de choix politique. C'est qu'à un moment donné, la SNCF a abandonné le fret ferroviaire parce que c'était trop compliqué à gérer, et donc la décision a été prise. Alors il y a un homme qui incarne cette politique, c'est Guillaume Pépi, qui est là depuis des années, qui est président depuis 10 ans, qui était numéro 2 depuis des années auparavant, et qui a dit l'avenir c'est le TGV.
C'est peut-être aussi un petit peu la faute quand même de Nichoumer, oui, des usagers, des utilisateurs des transports de fret, non ?
Je crois que ce cas particulier est emblématique parce qu'il y a beaucoup d'obstacles pour un renouvellement des wagons et pour une évolution favorable du système. On est d'abord dans une chaîne du froid. Or, depuis 20 ans, les contraintes techniques, sous la pression de la société, les contraintes techniques pour conserver le froid, pour enregistrer, pour la traçabilité, c'est le maître mot maintenant, du froid, ont considérablement évolué, et la route s'est adaptée puisque c'est la route qui, en général, transporte tous les produits sous température dirigée, comme on dit, température négative ou positive. Deuxièmement, on est dans un système où il y a une rupture de charge à la gare, c'est-à-dire que les produits sont amenés depuis les producteurs par camion et ensuite ils sont transférés par des chariots à l'intérieur des wagons qui sont avec des ouvertures de portes latérales, donc pas une technologie, j'irais, la plus facile pour permettre une productivité forte. Par rapport à des systèmes où on enfourne directement des palettes de produits, de fruits, de légumes dans des caisses mobiles qui vont être ensuite transportées par camion depuis le producteur jusqu'à une gare où ils vont être transférés à l'aide de portiques directement sur des wagons, sans qu'il y ait manutention par chariot élévateur, ou le système encore plus performant mais nécessitant plus d'investissement des autoroutes ferroviaires, où c'est carrément la semi-remorque du camion qui monte sur le wagon. Là, on perd en efficacité et on a déjà donc un obstacle, le coût très important. Et puis, il y a l'effet marche, effectivement, renouveler une flotte de 50, 60, 80 wagons d'un seul coup, sans avoir pensé à le faire progressivement, c'est un énorme effort. Et comme ce sont des matériels qui s'amortissent sur 30 ans, eh ben, il faut franchir l'obstacle.
Sans avoir à le faire penser à le faire progressivement, Philippe Buron, ça c'est vrai que c'est une des questions qu'on se pose. C'est-à-dire, comment se fait-il que un certain nombre d'acteurs de cette question aient semblé découvrir le fait que fin juin, cette ligne, qui est une ligne qui est importante, au moins au niveau symbolique, mais pas seulement, que cette ligne allait être suspendue?
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on était arrivé un peu, on avait prolongé l'usage de ces wagons, et puis on arrive à un moment ultime où on ne sait plus comment procéder. Et donc là, il y a un vrai sujet. Ce vrai sujet, c'est celui un peu de la prospective dans une entreprise. C'est le sujet de la prévision, hein. Et puis c'est le sujet aussi des provisions qu'on peut avoir pour renouveler le matériel. Et ça, c'est une chose qui n'a pas souvent été fait. La SNCF commande des matériels lorsque l'État, lorsque la région, lorsqu'une région lui passe commande. Donc il y a ici, je dirais, probablement des adaptations à faire dans le mode d'investissement de cette grande société.
Mais ça veut dire, Philippe Buron, que vous aussi, comme Marc Pressoz, vous faites porter la principale responsabilité à la SNCF. Est-ce que ça ne vient pas aussi peut-être, je ne sais pas, hein, des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi participer à la rénovation, ou du côté de Perpignan ou du côté de Rungis et du marché international d'intérêt national, pardon, le mine à Rungis, oui. Ou des pouvoirs publics, ou aussi des usagers, des utilisateurs des transports de fret que représente ce soir Dominique Chomer.
Non, mais c'est bien sûr des responsabilités partagées, toujours. Parce que si la SNCF a un fonctionnement qui est le sien aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est dans un rapport, dans un contrat, même maintenant, avec l'État. Et bien évidemment, ces choses-là, elles doivent être concerté, hein, et décidé entre l'État et puis aussi les collectivités territoriales. Mais les collectivités territoriales, vous savez, on les sollicite beaucoup, hein, et généralement elles répondent bien. Hein, elles répondent bien parce que elles y trouvent leur intérêt. Et parce qu'elles ont, vis-à-vis de leurs citoyens, vis-à-vis de leurs membres, elles essayent d'améliorer les services ferroviaires qui lui sont proposés. Les services ferroviaires à vocation pour les voyageurs, mais pourquoi pas non plus pour le fret, même si le fret, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'entrait pas dans le champ des collectivités.
Et encore moins dans le champ politique, hein, quand on voit les réactions qui ont eu lieu ces derniers jours pour essayer de sauver cette ligne. C'est vrai que on n'a pas tellement l'habitude d'entendre parler dans le débat politique du fret ferroviaire. Marc Pressoz.
On en entend parler quand, oui. Quand ça va mal et quand, oui, ça ferme et quand ça vient en contradiction de déclarations formidables. On se souvient du Grenelle de l'environnement. Jean-Louis Borloo disait on va doubler le fret ferroviaire. Avant lui, Jean-Claude Guessot, ministre communiste de Jospin, voulait faire la même chose. Mais bon, ce que j'ai dit sur le fret ferroviaire, le déclin du fret, c'était un peu global. Mais sur la ligne, cette fameuse ligne Perpignan-Rungis, il faut voir effectivement que l'équilibre économique, il est compliqué parce que c'est un train saisonnier, donc il y a du trafic une partie de l'année. Et par ailleurs, je crois que ce marché de Perpignan, il est un petit peu en déclin parce que l'organisation du fret a changé. C'est-à-dire qu'avant, ils collectent des produits maraîchers du sud-ouest et puis d'Espagne aussi. Et qu'il y avait, quand les camions arrivaient d'Espagne, je crois qu'il y avait une opération de dédouanement qui était un petit peu incontournable, qui se faisait physiquement là-bas. Et que par ailleurs, maintenant, les grossistes, ceux qui revendent les fruits, les achètent directement aux producteurs et ne passent plus forcément par Rungis. Donc il y a une structure.
Donc d'un côté la dématérialisation des douanes, de l'autre le fait qu'on contourne Rungis, ça explique aussi que ça perd son importance.
Voilà, c'est pour ça que les déclarations des ministres, la ministre Elisabeth Borne qui se glorifie, qui fait un énorme communiqué pour dire j'ai sauvé le train. Bon, c'est une rustine, quoi. C'est un pis-aller.
Et pourtant, vous nous avez dit au début de l'émission, Denis Chomer, que si on se mettait autour de la table, il y avait des solutions pour rendre ce sauvetage pérenne.
Il faut des solutions temporaires. D'abord, je voudrais qu'on arrête de parler de ligne. C'est pas une ligne, c'est la circulation de ces trains. C'est pas du tout pareil que la fermeture d'une ligne capillaire fret ou d'une ligne voyageur, petite ligne voyageur.
Voilà, en l'occurrence, c'est une circulation nocturne.
Et en l'occurrence, l'État a remis de l'argent, puisque quand ils ont fait la ligne LGV de contournement Nîmes-Montpellier, c'était pour libérer l'ancienne ligne voyageur dans cette zone-là pour que la circulation fret soit plus performante. Donc, c'était pris en compte dans le calcul de rentabilité de ce contournement de Nîmes-Montpellier. Donc, en fait, on peut dire que SNCF Réseau, ex-RFF à l'époque, a remis de l'argent en partie pour le fret dans ce coin-là. Le problème, c'est un problème court terme. Et puis, vous parlez d'Espagne, c'est que les Espagnols viennent de terminer de mettre au gabarit européen la ligne entre Perpignan et Barcelone. La future grande ligne, sans doute, sera Barcelone, qui va capter toute une partie des producteurs de fruits et légumes de l'est de l'Espagne, Barcelone vers la région parisienne et vers au plus tard l'Allemagne, les pays scandinaves, etc. Est-ce que Perpignan pourra profiter d'être être entraîné par ce dynamisme? Sans doute, parce qu'on pourra imaginer des trains, voilà, où une partie des wagons pourra être laissée et accrochée à Perpignan venant de Barcelone. Donc tout ça, il y a une réflexion à mener sur le long terme, et c'est idiot effectivement d'abandonner ce gare, parce que dans le fret ferroviaire, comme dans beaucoup d'autres systèmes, une fois qu'on arrête, pour revenir, c'est beaucoup plus coûteux.
Le fret ferroviaire est ouvert à la concurrence depuis plus d'une dizaine d'années. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des concurrents de la SNCF qui se manifestent en disant « nous, on est bien d'accord pour reprendre ça si c'est rentable ».
Ils ont été plombés par la réforme qui a été la réforme sociale. Enfin, c'est-à-dire que quand le marché a été ouvert à la concurrence, il n'y a pas eu de convention collective commune. Ensuite, quand il y a eu la réforme de la SNCF en 2014, on s'est dit il faut mettre tout le monde sur le même plan, c'est-à-dire les salariés des entreprises, les conducteurs de train des entreprises privées et la SNCF. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est comme la SNCF est irréformable, qu'on ne peut pas toucher au fonctionnement, eh bien on a aligné tout le monde sur le même régime. Ce qui fait que les entreprises privées qui étaient à un petit équilibre, aujourd'hui, beaucoup perdent de l'argent et doivent se mettre sur des trafics, les grands axes, et ne peuvent plus faire...
Donc, vous êtes d'accord avec ça, Philippe Duron? C'est à cause, en gros, du statut des cheminots que finalement le fret ferroviaire connaît des difficultés.
C'est une des équations de la question ferroviaire. Ça n'est pas la seule. Hein. Et vous disiez tout à l'heure que demain les trains iront peut-être à Barcelone. Ils y vont déjà. L'autoroute ferroviaire Bettembourg qui allait jusqu'au Boulou est maintenant prolongée depuis le début de l'année vers Barcelone. C'est vrai qu'on est face à des transformations profondes du fret ferroviaire, et ça, c'est pas nouveau.
Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ce serait plus intéressant, en tout cas plus rentable, d'avoir un système comme on peut le trouver dans le transport routier, où il y a par exemple du dumping social? On voit bien qu'il y a une concurrence qui est forte sur les salaires au sein de l'Union européenne. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux aller vers un mieux-disant plutôt que vers un moins-disant?
Je pense qu'il faut bien sûr aller vers un mieux-disant. Mais je pense que la question sociale est une des questions. Elle est de loin, elle n'est pas la seule, et le temps s'en faut. Hein. Quand on regarde la question du fret ferroviaire, on voit d'abord qu'il y a un changement profond en France, quand on compare avec d'autres pays, de la géographie industrielle du pays. Et donc, ce qui faisait la force du fret ferroviaire il y a 30 ans, à savoir le transport de pondéreux, le transport de vrac, de minerais, de charbon, de produits industriels lourds, cela a quasiment disparu.
C'est pas la seule raison.
C'est une des raisons.
Il y a aussi des travaux tout le temps.
Il y a aussi des travaux, mais vous avez raison.
Les travaux sont la nuit. Oui. Enfin, il y a un programme, c'est heureux, il y a un programme d'investissement colossal. Et ces travaux se passent la nuit, et c'est sur des dizaines d'années. Ensuite, il y a le problème social quand même, les grèves. Enfin, il faut demander à Monsieur Schumer.
Et bien justement, j'allais lui poser la question. Je rappelle donc Denis Schumer, président de l'Association des utilisateurs de transport de fret. Quelle est la principale raison, une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs des transports de fret négligent, en tout cas ne vont pas de manière plus importante vers le fret ferroviaire et semble aller davantage, c'est ce que disent les chiffres, puis c'est assez large comme avantage, vers le transport routier? C'est pour des questions de coût, c'est pour des questions de fiabilité, pour des questions de souplesse?
Tout cela à la fois. Donc la fiabilité, ça se mesure dans le temps, ça se mesure pas seulement sur une année, ça se mesure sur plusieurs années. Et comme quand on a des événements comme ceux de l'année dernière, eh bien effectivement, on repart avec des notes très mauvaises sur le paramètre fiabilité du fret ferroviaire pour quelques années. Donc ça va.
Les événements de l'année dernière, c'est les grèves contre la réforme.
Voilà, les grèves contre la réforme. Alors certes, on nous dit qu'à chaque fois c'est la bonne réforme, c'est pour de bon, mais c'est quand même la deuxième réforme à 3 ans d'intervalle. Et donc, c'est vrai que ça fait fuir déjà ceux qui sont timides. Il y a tous ceux qui sont...
Les routiers font grève aussi, quand même.
Les routiers font grève,
mais ils font des blocages.
Toujours, oui, ils font des blocages autour des dépôts pétroliers. Et puis, les gilets jaunes, c'était surtout autour des centres de distribution, c'était pas les routiers. Les routiers sont plus malins, ils font ça autour des centres de dépôts de carburant. Ils bloquent pas l'ensemble des autoroutes et l'ensemble des grandes routes nationales, comme ça a pu être le cas. Donc, lorsque les grèves ferroviaires de printemps dernier, il faut voir que c'était perlé, c'est-à-dire que c'était tournant. C'est-à-dire qu'avec 300 personnes faisant grève par petits bout de petites équipes de 5-10 personnes, on arrive carrément à paralyser la moitié du réseau français, parce que les postes d'aiguillage sont neutralisés.
Bon, moi, je suis quand même étonné par cette conversation, mais c'est toujours intéressant, justement. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que tous les trois, finalement, très spontanément et de manière beaucoup plus importante, vous disiez d'abord, mais non, ce qui manque d'abord, c'est des investissements, et des investissements importants dans le fret ferroviaire.
Si vous voulez, on a dit tout à l'heure, et Marc Fressoz a fait un livre sur ce sujet-là, qu'on avait beaucoup investi pendant 20 ans sur la grande vitesse et on a négligé le réseau classique. Et bien évidemment, aujourd'hui, on redécouvre les vertus du réseau classique, on met la priorité sur la régénération des réseaux, des nœuds ferroviaires, et en améliorant les choses, on paralyse aussi le réseau. Parce que comme l'a dit Marc Fressoz, c'est la nuit que l'on fait les chantiers. Or, c'est la nuit que roulent les trains de fret. Donc, pendant une dizaine d'années, on peut craindre que le fret ferroviaire soit encore handicapé par la rénovation du réseau. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y a un autre problème qui est très difficile, c'est la traversée des grandes métropoles, des grandes agglomérations par les trains de fret. Et là, on est dans un niveau de saturation des grands nœuds qui est vraiment problématique, et il va falloir que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, on désature les nœuds ferroviaires que sont autour des grandes gares parisiennes, autour de Lyon. Et je voudrais prendre l'exemple de Lyon. À Lyon, vous avez un nœud ferroviaire qui est particulièrement engorgé parce qu'il y a beaucoup de trafic de grandes lignes, il y a le trafic régional qui est très important et un peu de fret qui passe encore par là. Mais il est nécessaire, il sera nécessaire demain d'abord de désaturer ce nœud et ensuite de faire un contournement ferroviaire de Lyon. Sauf que ça coûte très cher. Et bien évidemment, actuellement, on n'a pas les moyens de financer cela, de financer tout à la fois, parce que c'est un peu ce qu'il faut faire actuellement en ferroviaire. Il faut régénérer les infrastructures, il faut remplacer le matériel, et il faut également créer des voies nouvelles pour l'avenir, pour désaturer, pour accéder au futur tunnel Lyon-Turin, et ainsi de suite.
Et ça, c'est pas seulement la SNCF et les opérateurs du fret ferroviaire qui peuvent financer bien sûr ces infrastructures, Marc Fressoz.
Mais disons que les investissements de l'État ont été orientés ces 20 dernières années par des structures, par exemple Philippe Duron le sait, il est également coprésident d'un think tank qui s'appelle TDIE, Transport Développement
Intermodalité,
et qui est logé à la Fédération Nationale des Travaux Privés, des Travaux Publics. Et
on est locataire.
Et les travaux publics sont également un des contributeurs de ce think tank. Et
la SNCF aussi, Voie Navigable de France également.
Et ce think tank, à chaque grande échéance électorale, publie une carte de France couverte de lignes à grande vitesse, couverte d'autoroutes, de canaux, de Lyon-Turin, etc. Et va fait la tournée des majorités en disant voilà ce qu'il faut faire. Et le fret là-dedans,
c'est un peu caricatural.
J'explique aux gens qui sont.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai décalage entre le discours politique et les investissements, ou bien est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas
le fret. C'est vrai que le fret, un train de fret est moins rentable que le passage d'un TGV.
Je ne peux pas dire ce qu'il vient de dire.
Alors Philippe Duron, et ensuite je reviens vers Denis.
Il y a eu un changement profond dans les politiques publiques depuis maintenant 5 ou 6 ans, depuis une dizaine d'années même. C'est-à-dire que on manque de grain à moudre. Pendant très longtemps, on a pensé qu'on réglerait les problèmes de la mobilité et du transport par l'offre, en créant des infrastructures nouvelles. Et puis, on a commencé à comprendre dans les années 2000 qu'on n'aurait pas les moyens de faire tous les projets qui avaient été sédimentés. Je pense au schéma national des infrastructures de transport de Nicolas Sarkozy. C'était 175 projets, 240 milliards, infinançables. Et donc, depuis la loi d'aménagement du territoire de Dominique Voynet, on était parti sur une autre idée, celle de la satisfaction des besoins constatés des territoires et des populations. Et on est revenu sur ce sujet, hein, dans une commission que j'ai présidée qui s'appelait Mobilité 21, commission composée de politiques et d'experts, hein, et qui a fait deux recommandations importantes. Premièrement, il faut absolument donner la priorité à la régénération du réseau, et il faut aussi apporter les services à la population sur l'ensemble du territoire. Et le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il est allé inaugurer les LGV Atlantique, c'était le mois de juillet 2017, il a dit deux choses. Il a dit, premièrement, c'est la dernière LGV que je vais inaugurer. C'est la première et la dernière. Et il a dit ensuite, hein, eh bien, demain, mes deux priorités seront la régénération des infrastructures et les transports du quotidien. Et on a, dans une mission, dans le conseil d'orientation, on a décidé, on a fait trois propositions à l'État, en lui disant, voilà, vous pouvez mettre plus ou moins de moyens en fonction des moyens de l'État, hein, pour régénérer ces choses. Et ce qui a été accepté, c'est-à-dire que la priorité maintenant, c'est la régénération.
Sauf que les élus n'entendent pas du tout ça. Enfin,
mais ils commencent à l'entendre, Marc.
La difficulté des élus, c'est que pendant 20 ans, on leur a dit, si vous n'avez pas votre TGV dans votre ville, vous êtes ringard. Et là, vous allez voir, par exemple, en Nouvelle-Occitanie, vous avez la présidente de région qui dit, on m'avait promis le TGV jusqu'à Toulouse, et puis d'un côté...
Ils ont financé.
Ce discours, il est très difficile
les élus de Provence Côte d'Azur, qu'on appelle le Grand Sud, maintenant, ils ont compris depuis 5 ans que leur besoin, c'était pas la grande vitesse, c'était la capacité de leur système ferroviaire et la robustesse du système ferroviaire.
Alors, n'oublions pas Philippe Duron et Marc Fressos, que nous avons aussi parmi nous, Denis.
Oui, moi, je suis là pour le défenseur des rentabilités économiques.
Quand on regarde, juste aussi pour nos auditrices et nos auditeurs aussi, avoir quelques chiffres qui sont quand même assez éloquents. J'ai vu, par exemple, la part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises a été divisé par 2 depuis 1990. L'ouverture à la concurrence qui était quand même censée rebooster le fret ferroviaire, même si Marc Fressos nous a expliqué que notamment du fait de l'alignement des conditions sociales, ça avait peut-être freiné ce rebond du fret. Mais manifestement, on est plutôt dans une phase quasi ininterrompue de déclin. Est-ce que vous avez l'impression, comme le dit Philippe Durand, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, notamment du fait des enjeux environnementaux, et qu'il y a une véritable volonté de donner davantage de place au fret ferroviaire? Ou bien est-ce que vous êtes confronté à peu près aux mêmes difficultés depuis un certain nombre d'années?
Alors d'abord, le déclin qu'on regarde 20 ans en arrière, il faut voir que la société, la production économique a complètement changé. La production industrielle s'est écroulée dans bien des domaines, la sidérurgie, une partie du raffinage, l'automobile a été largement délocalisée, alors que la croissance s'est produite dans les produits de grande consommation et les produits alimentaires, qui sont par essence à 95%, alors pour le coup, sauf pour les céréales qu'on exporte sur les foires français, transportées par la route. Donc si on n'avait pas, disons, ce changement de modèle économique, peut-être que la part du ferroviaire serait restée plus importante.
Il y a aussi le modèle de consommation qui change. Je crois que c'est vous, justement, Denis Chaumière, qui, en préparant l'émission, nous expliquiez que, enfin, c'est quelque chose qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a de grandes plateformes de vente en ligne qui se développent énormément, et que ça, c'est pas par le fret ferroviaire que ça peut arriver. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, nos modes de vie contribue aussi peut-être à faire en sorte que ce soit le transport routier qui reste ultra dominant encore aujourd'hui en France.
Bien sûr, les seules tendances qui pourraient inverser cela, c'est là effectivement les circuits courts dans les produits agroalimentaires dont on entend de plus en plus parler, la relocalisation d'industries textiles haut de gamme, etc. Mais effectivement, depuis 10 ans et encore pour les projections qu'on fait, les croissances vont se produire dans la route et sur l'aérien. Et à cause de quoi sur l'aérien? À cause de la croissance du e-commerce et de tous ces produits qu'on achète et qui viennent de Chine, d'Asie, parfois des États-Unis, par voie aérienne.
Ça veut dire que même si on investit fortement dans le fret ferroviaire, la route, le transport routier va continuer à se développer pour vous, Denis Chaumard?
Il est plus flexible. On fait du bout en bout en route. En ferroviaire, on fait rarement du bout en bout. Il faut donc des ruptures de charge. Il faut de la capacité. Il faut toute l'année pouvoir rentabiliser des locomotives, des wagons. La SNCF, parfois mieux le faire quand c'est pas toute l'année parce qu'elle a un maillage plus important que ces nouveaux entrants qui se sont développés sur des axes en essayant d'avoir justement une capacité utilisée le mieux possible. Oui, le ferroviaire a beaucoup d'obstacles. Alors là, la technologie digitale arrive dans le ferroviaire, va permettre de mutualiser, va permettre d'échanger de l'information, va permettre de faire sauter des barrières. Il va falloir, si la législation européenne de la concurrence permet de le faire aussi, pour pouvoir regrouper les envois et donc gagner en productivité. C'est ça le problème de la ferroviaire. C'est par rapport à des coûts fixes très importants, quelle productivité j'arrive à faire. Alors, le réseau, la performance réseau, elle n'est pas bonne. Ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'elle va s'améliorer dans 5 ans. On est dans le système de la carotte au bout du bâton. Les sommes en jeu sont énormes. Aujourd'hui, on a juste simplement arrêté l'obsolescence de dégrader le réseau. L'obsolescence du réseau a été stabilisée. Le moderniser va coûter beaucoup plus et va perturber, c'est vrai, pendant encore longtemps le fret ferroviaire parce qu'en France, on a ces centres nerveux de population qui sont au milieu des lignes de fret, au milieu des grands axes, au milieu des corridors européens qui joignent nos ports des façades atlantiques et méditerranéennes, aux grands centres de consommation du nord de l'Europe. Ces corridors européens, c'est l'avenir du fret ferroviaire. Il faut absolument faire le contournement de Lyon, il faut absolument faire le contournement de Paris.
Et Philippe Durand. Et alors, ce qu'on n'a pas encore dit les uns et les autres, c'est que d'abord, il y a une pertinence du fret ferroviaire. Sur les petites distances, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il y a de la... Or, une grande partie du trafic se fait sur des courtes distances. En revanche, sur le trafic de transit, le fret ferroviaire, il a une pertinence. Et depuis quelques années, on a lancé en France des autoroutes ferroviaires. Et depuis Calais, demain depuis Dunkerque, depuis le Luxembourg, vers l'Espagne, eh bien on voit la montée du trafic de camionnettes, de cargaisons embarquées, de remorques qui sont transportées sur de longues distances.
La pertinence, elle est sur quoi? Sur le prix?
Comment?
La pertinence, vous dites,
c'est la pertinence, c'est le prix. Le prix, la distance, parce que vous avez
l'impact environnemental,
voilà,
aussi.
Voilà, l'impact environnemental joue. Et bien, on le mesure peut-être pas suffisamment aujourd'hui. Et puis demain, ce qu'il faut faire.
Puis la sécurité aussi, parce que des camions sur les routes, c'est plus dangereux qu'un train sur les rails.
Les camions sont en train d'évoluer aussi. Quand on regarde un petit peu ce qui se prépare ici ou là en Allemagne, notamment, on voit des camions qui vont avoir des tonnages encore plus importants que ce qu'on a connu. On voit des trains de camions qui seront avec les techniques du véhicule autonome, peut-être.
Et plus tard, des routes électriques ou des autoroutes électriques où les trains de camions auront des caténaires.
Avec des caténaires, ils sont en train d'en tester en Allemagne actuellement.
Des lignes ferroviaires sur autoroute.
Donc, le camion est souple, il s'adapte très facilement. Mais il y a aussi un sujet sur lequel il faut qu'on avance, c'est l'amélioration de la liaison des ports et de leur hinterland. On voit par exemple que le trafic, enfin le pré et le post-acheminement d'un port comme le Havre est devenu ridicule, 8%, alors qu'il était plus du double il y a encore une dizaine d'années, parce qu'on a une saturation de la ligne ferroviaire Paris-Le Havre, et aujourd'hui on est en train d'électrifier une ligne secondaire, Serqueux-Gisors, qui devrait peut-être améliorer un peu cette situation. Et puis on a aussi, bien évidemment, le fluvial pour les grandes métropoles.
Alors vous prenez l'exemple de l'Allemagne, vous parlez de longue distance, ça nous amène à la politique des transports européennes. Un des dossiers très importants, l'Union européenne, Marc Fressoz. On est aussi au lendemain des élections européennes. Alors je ne sais pas si c'est d'ailleurs un thème qui a été très présent dans cette campagne, mais est-ce qu'il y a une politique européenne du fret ferroviaire, ou bien est-ce qu'il y en a 28? Enfin, peut-être pas 28, parce que je crois qu'il y a deux pays, Malte et Chypre, qui n'ont pas de réseau. Mais sinon, voilà.
Il y a des politiques de transport de l'Union européenne, et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû dire, pour que les auditeurs comprennent un peu plus, de dire un peu le cadre dans lequel on se trouve, parce que effectivement le déclin du fret, il résulte de problèmes français spécifiques à la SNCF, mais il s'inscrit aussi dans un mouvement, c'est-à-dire que il y a eu l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est, et concomitamment il y a eu la libéralisation du marché du transport routier, qui permet aux transporteurs de franchir la frontière, de s'arrêter en France, de prendre du trafic là, de le prendre à Marseille, l'amener à Lyon, puis de repartir dans leur pays. Et ça a profité grandement aux chargeurs, aux industriels, aux consommateurs aussi, mais ça a fait énormément de tort Et c'était une politique voulue. C'était il y a quelques années, enfin il y a deux mandats de ça, je crois. C'était le livre blanc. Donc il y avait des gens à la Commission européenne 2011, oui, qui avaient réfléchi en disant voilà, il faut qu'on fasse, on coordonne l'ouverture du marché routier à celui du ferroviaire, et les deux vont produire une mayonnaise extraordinaire. Et en fait, c'est pas le cas.
La Commission sortante avait d'autres projets, transférer 30% du fret de la route vers le chemin de fer ou le fluvial d'ici 2030.
Oui, c'est ça. Et alors là, en fait, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire que le Parlement sortant, il a légiféré sur les conditions sociales du transport routier, parce que justement, les pays, des grands pays comme l'Allemagne se disent c'est un bain de sang, c'est le Far West. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de Hongrie, de Bulgarie, qui dorment, qui restent en dehors de leur pays pendant un mois, ils dorment dans leur cabine, c'est plus possible, et puis ça détruit les transporteurs de l'Ouest. Donc il y a ce qu'on appelle le paquet mobilité, c'est un ensemble de textes de lois européennes qui essayent de faire s'entendre les pays de l'Est qui ont intérêt à la libéralisation et les pays de l'Ouest qui veulent défendre leurs entreprises. Et là, il y a une partie qui a été votée avant les élections, et le nouveau Parlement doit terminer le travail. Et c'est pour corriger l'ultralibéralisation du marché du transport routier. Quoi.
Philippe Durand, comme président du Conseil d'orientation des infrastructures, est-ce que vous avez des interlocuteurs à des postes équivalents ou dans des structures équivalentes au sein de l'Union européenne?
Non, mais on a des contacts avec, bien sûr, le COI, mais aussi avec TDE. On a des contacts avec la DG Move, c'est-à-dire la Direction Générale de la Mobilité à Bruxelles, et avec les parlementaires européens. Je viens de quitter, avant de venir vous voir, Christine Revaud-Allonne, qui était la rapporteure de la directive Eurovignette dans la précédente mandature. Hein. Donc, on se parle avec ces gens-là. Et c'est vrai qu'il y a une volonté d'ouverture et une volonté de convergence. Et maintenant, de régulation, parce que l'ouverture, elle a été brutale, elle a mis en danger les entreprises de transport français. La part de l'international dans le chiffre d'affaires des entreprises de transport en France, le transport routier, s'est effondrée après cette ouverture. Hein. Donc, et on voit maintenant même qu'on a du mal à trouver, comme on a fait tellement de dumping sur les salaires en matière de transport routier, on a du mal à trouver des chauffeurs pour conduire les camions, les cars. On va maintenant jusqu'en Ukraine en chercher, hein, parce qu'on n'en trouve plus suffisamment dans les pays de l'Union européenne. Donc il y a un besoin de régulation. Et il y a un besoin aussi d'un signal prix pour peut-être rééquilibrer entre, j'allais dire, la route et le chemin de fer. C'est toute la problématique de la redevance kilométrique sur les transports, qu'on appelle la directive Eurovignette. Elle vient d'être révisée, elle n'est pas encore adoptée par le Conseil des ministres. Mais l'idée, c'est de dire, la route a un prix. Et il faut, j'allais dire, que les utilisateurs professionnels paient ce prix. Hein. Les Allemands l'ont fait avec ce qu'on appelle la toll collect il y a maintenant une dizaine d'années. Les Belges l'ont fait. Il y a 9 pays en Europe qui se sont dotés de ce système qui leur permet à la fois d'entretenir leur réseau, qui leur permet de financer des réseaux alternatifs et qui finalement permet de réguler aussi le trafic et de mieux charger les camions. Parce qu'en Allemagne, depuis qu'il y a toll collect, hein, eh bien les transporteurs ne baladent plus, laissent plus rouler des camions à vide. Ils les chargent au mieux.
Denis Chomer.
Oui, d'abord, je veux dire que l'Europe, c'est pas aussi beau que ce que vous dites, vous avez l'air de prétendre. Il y a beaucoup de choses qui sont très en retard. Il y a une agence de sécurité européenne qui a été créée, mais elle n'a aucun pouvoir pour imposer une certification des matériels qui soit la même pour l'ensemble de l'Europe. Ce sont les agences de sécurité nationales qui décident des certifications de leur matériel, alors coordonnées par l'ERA, mais ce n'est qu'une coordination simple. Ensuite, au niveau du passage des frontières, c'est terrible. Le problématique de langue, donc il faut changer de conducteur quand le conducteur ne parle pas la langue. Il faut changer de matériel quand le matériel n'est pas certifié. Donc il y a des coûts de passage de frontières énormes. Les corridors européens ont du mal, commencent à travailler pour que les blocages dus à des travaux d'un côté de la frontière allemande et de l'autre côté de la frontière allemande soient au même moment, au même mois de l'année. Et non pas qu'on ait 6 mois d'arrêt, parce que 3 mois pas en France et 3 mois d'arrêt sur cet axe-là en Allemagne. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça va prendre du temps. Quant à la route, elle fait des efforts, et si on la charge davantage en taxes et autres, elle aura quand même de toute façon un tel gisement de productivité et d'avance technologique que ça ne servira à peine le fret SNCF. C'est le fret ferroviaire qui doit se sauver lui-même. Il ne doit pas compter sur les taxes, même si les taxes sont nécessaires.
Une toute dernière chose, on est à Paris avec des difficultés de circulation à l'intérieur, notamment liées à des camions de livraison. Moi, j'ai longtemps habité au-dessus de ce qu'on appelle la Petite Ceinture, qui est une ligne de chemin de fer désaffectée. Est-ce qu'il y a un certain nombre de lignes de chemin de fer qui sont désaffectées en France, j'imagine, Marc Fressoz. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans l'idée, pour assurer aussi ce transport de proximité, transport de marchandises, que d'en rouvrir certaines? Et pourquoi pas cette Petite Ceinture à Paris? Est-ce que c'est quelque chose qui
l'acceptation a changé. Il faut voir que aujourd'hui, donc tous les wagons d'Europe vont sans doute avoir à changer leurs freins, des freins à semelles composites, parce que les freins métalliques font énormément de bruit. Les trains de fret, c'est un réel problème. Quand vous dormez à Hambourg, à Hanovre, la nuit, si vous êtes trop près de la ligne, vous avez des trains de fret toutes les 5 minutes. Donc c'est un problème de bruit.
Des trains longs de 800 mètres.
La ligne Serqueux-Gisors, il va y avoir beaucoup de murs par bruit, ça va surenchérir le coût de rénovation de cette ligne.
Bon, bonne nouvelle pour les riverains de la Petite Ceinture. Vous ne serez pas réveillés en pleine nuit par les transports de marchandises. Merci beaucoup à tous les trois, Philippe Duron, Denis Schumer et Marc Fressoz.
Merci.
Vous pourrez retrouver cette discussion sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Amélie Perrault, Camille Fouchard, à Capuano, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Léograt avec à la prise de son Audrey Guélil. Dans un instant, ce sera La Dispute avec vous, Lucille Comeau, et de la pop ce soir.
En partie, oui, en tout cas des musiques actuelles. Merci beaucoup Hervé Gardette. On se retrouve nous demain pour d'autres Grains à Moudre qui seront consacrés à...
Aux 10 ans de la généralisation du RSA. Le travail, y a que ça de vrai. Ce sera la question qu'on posera demain.